Chers frères et sœurs, nous aimons donc lire ce soir la troisième épître de Jean. Je vais d'abord lire le texte. L'ancien à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Car je me suis très fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité, comment toi tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'Assemblée. Et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu, car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Nous donc, nous devons recevoir de tels hommes afin que nous coopérions avec la vérité. J'ai écrit quelque chose à l'Assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchantes paroles contre nous. Et non content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères et il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Démétrius a le témoignage de tous et de la vérité elle-même, et nous aussi nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'avais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas t'écrire avec l'encre et la plume, mais j'espère te voir bientôt, et nous parlerons bouche à bouche. Paix te soit. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom. Le grand sujet de ces deux épîtres de l'apôtre Jean, c'est, comme nous avons vu déjà hier, la vérité et l'amour. Les deux expressions qu'il emploie très souvent dans cet épître. Nous avons vu hier que la vérité, que c'était l'amour dans la vérité, et que aussi lui, il aimait cette femme, cette dame et ses enfants dans la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité était dans leur cœur, parce qu'ils connaissaient la vérité, parce qu'ils étaient des croyants, parce qu'ils étaient de telles personnes qui étaient aussi ceux qui suivait celui qui est la vérité. Nous nous sommes dit aussi, nous avons trois expressions, trois choses qui sont liées directement avec la vérité, identifiées avec la vérité, c'est-à-dire d'une part, ce que nous avons devant nous, la parole et la vérité, deuxièmement, ou peut-être premièrement, aussi on pourrait dire, le Seigneur Jésus qui est la vérité et qui a aussi exercé la vérité, qui a aussi prêché la vérité. Et puis nous avons, troisièmement, encore l'Esprit Saint qui est la vérité. Nous en sommes très heureux de ce que c'est ainsi, parce que nous connaissons les trois. Nous connaissons le Seigneur Jésus, qui est la vérité, comme notre Sauveur, notre Seigneur, et qui nous aime en vérité. C'est un vrai amour, un amour qui nous touche, qui doit nous toucher toujours, parce que lui qui est la vérité se lie avec ceux qui étaient des pécheurs, qui étaient des hommes perdus, qui étaient des hommes qui ne voulaient rien savoir de Dieu, mais que lui, il a, j'ose dire un peu comme ça, il a vaincu, pour ainsi dire. Et nous connaissons maintenant la vérité, et nous connaissons et de cœur aussi cette vérité, quant à nous, mais aussi quant au Seigneur, quant à Dieu, dans ses grandes pensées, dans son conseil éternel qu'il avait. Voilà la vérité, la parole qui est la vérité et qui nous montre tout cela. J'avais dit hier soir encore que j'aimerais dire encore quelque chose concernant cette deuxième épître de Jean. J'aimerais peut-être toucher deux points encore dans cette deuxième épître, si vous voulez bien me suivre. Je pense au verset 8 et au verset 9. Au verset 8, nous trouvons que cette dame et ses enfants qui marchaient dans la vérité, l'apôtre avait dit qu'il avait vu des enfants de cette dame marcher dans la vérité, mais alors pourtant, il dit « Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. » Gardez-vous. Prenez garde à vous-même. Alors nous voyons en cela que le danger peut toujours être là. D'ailleurs, tout à l'heure, nous avons chanté dans notre cantique aussi du fait que, même aussi dans le danger, nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous protège aussi dans les dangers qui peuvent arriver. Nous connaissons les dangers qui peuvent arriver dans notre vie. Ici, dans cet épître, ce sont des paroles, des fausses paroles, c'est des fausses doctrines qui étaient répandues par des personnes qui sont appelées des séducteurs, et même l'Antichrist, parce que c'est l'esprit de l'Antichrist qui parle. Séducteur, c'est contre les hommes. Antichrist, c'est contre Christ, c'est contre le Seigneur Jésus. Donc nous voyons que c'est très important que de se garder, de prendre garde vraiment de ne pas être séduit par ces hommes-là qui ont une apparence de vérité. Ils disent de belles paroles et pourtant, dans ces paroles, il y a des choses qui sont néfastes pour nous. Donc, prendre garde, rester tout près du Seigneur Jésus qui est la vérité, restez tout près aussi de la parole. C'est la parole qui veut nous garder. Et alors l'apôtre dit encore, c'est juste une petite pensée, c'est une sorte de, c'est un inséré, l'apôtre a inséré ce verset 8 là, parce qu'il parle aussi un peu de lui-même et aussi des autres serviteurs du Seigneur, afin que nous ne perdions pas le salaire. Parce que, on comprend bien, il avait ce souci. Si ceux qui avaient, par son service, trouvé le Seigneur Jésus, qui s'étaient convertis, qui appartenaient au Seigneur, s'ils étaient pris comme une proie par l'ennemi, ça leur avait fait un très, 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 l'a rendu très triste, et aussi, cela, il dit alors, peut-être je ne reçois pas pour cela un salaire. Pensez aussi un peu à nous, pensez un peu aussi à moi. Et nous comprenons, peut-être nous pouvons bien comprendre ça quand nous pensons à une relation dans laquelle nous sommes tous. Un enfant qui ne suit pas le chemin qui plaît à ses parents, alors c'est très dur, c'est très, très mauvais pour lui, très mal, mais cela porte aussi quelque chose sur les parents. Alors ils se disent, est-ce que nous avons bien agi? Est-ce que nous avons vraiment éduqué, élevé nos enfants comme il faut? Est-ce que nous avons vraiment dit, nous avons parlé de la parole? Est-ce que nous étions vraiment un modèle? On comprend ces pensées qu'on peut avoir. Et c'est un peu comme cela que l'apôtre aussi parle ici. Donc c'est quelque chose qui touche le cœur de cette dame et de ses enfants. Ah oui, alors, nous sommes aussi un peu, vous me permettez de dire, nous sommes aussi un peu responsables envers celui qui nous a menés, qui nous a conduits au Seigneur, qui nous a fait comprendre la vérité. Vous comprenez, quand je dis responsable, une certaine responsabilité qu'on peut aussi ressentir. Je me rappelle, par exemple, qu'il m'est arrivé, étant jeune garçon, alors il y avait quelque chose qui était arrivé, une séduction qui était là. Et alors, qu'est-ce qui m'a gardé là? Je le sais encore très bien, que je me suis dit, mais alors, que dirait ton père? Que diront mes parents? Ah non! Puis, je voulais encore dire un mot concernant le verset 9, où nous avons cette expression « Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. » Mener en avant. Alors, c'est une expression, je dis que pour moi c'était un peu difficile de comprendre. En allemand, nous avons une autre expression que je comprenais mieux. Mais c'est « aller ne pas... » Celui qui vous mène en dépassant la limite, en dépassant la limite de la révélation divine, quand vous allez plus loin que la parole nous permet. C'est ça. Et ce danger est toujours là. Hein. Et d'ailleurs, c'est une expression que l'on trouve dans le Deutéronome une fois. Alors là aussi, on est vraiment averti de ne pas dépasser ce que Dieu avait dit. Et nous trouvons cela encore tout à la fin de l'Écriture. À l'Apocalypse 22, nous avons ça aussi. N'ajoutez rien. Celui qui ajoute quelque chose, oh là, c'est une grave erreur qu'il fait. Ajouter quelque chose ou bien enlever quelque chose. Non, la parole est là comme Dieu l'a voulu. Elle est complète. Et nous retenons la parole depuis le premier mot jusqu'au dernier mot. La parole de Dieu inspirée par l'Esprit Saint. Et puis, la doctrine de Christ, qu'est-ce que c'est la doctrine de Christ? Ou la doctrine du Christ? C'est ce qui est dit exactement du Seigneur Jésus. Alors, pour dire simplement quelques détails. Le Seigneur Jésus, il est vrai Dieu. Dieu, le Fils. Le Fils éternel. Ensuite, le Seigneur Jésus est devenu homme. Et comment est-ce qu'il est devenu homme? Il est devenu homme par... Il a été engendré par l'Esprit Saint. Important, par l'Esprit Saint. Il est né d'une femme, mais d'une femme vierge, important également, parce que cela lui donne un rang absolument unique. Il n'y a personne d'autre, et pourtant il est un homme comme nous avons dit déjà hier, un homme comme nous. Il est venu en chair, comme il est dit. Et le Seigneur était toujours, quand il était ici sur la terre, le Fils de Dieu, et cet homme, il s'appelle lui-même aussi le Fils de l'homme. C'est encore en relation avec ce qui vient encore dans l'avenir, n'est-ce pas? Parce qu'il était aussi le Christ. Le Christ, ça nous donne aussi encore cette idée que le Seigneur Jésus est celui que Dieu a scellé. Sceller, on peut dire, oui, sceller comme cela, pour être vraiment celui qui gouvernera la terre selon la grande pensée de Dieu. Aucune autre personne n'a jamais gouverné ici, régné ici, selon la pleine volonté de Dieu. Il y a toujours des fautes, il y a toujours des, des erreurs, il y a toujours de la propre volonté, il y a tout cela, même dans les rois, les meilleurs rois qu'on puisse se représenter. Le Seigneur Jésus sera celui qui est toujours juste, toujours droit, et il sera un roi exactement selon le cœur de Dieu. Et alors tout ce qu'il fera encore après le règne des mille ans, n'est-ce pas, il mettra tout en ordre, tout ce que l'ennemi et nous les hommes, à sa suite, nous avons fait tellement de... Ce qui était beau, ce qui était bien, comme Dieu l'a dit, tout était très bien, nous avons gâté tout cela, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus, il va remettre tout en ordre selon la grande pensée de Dieu. Ce sera la gloire de Dieu qui brillera entièrement et absolument dans le monde tel que le Seigneur Jésus va la... Oui, il va la redonner à Dieu le Père. Voilà la doctrine de Christ. Certainement, nous pouvons ajouter encore des choses, bien des choses qui sont très beaux concernant le Seigneur Jésus, mais j'ai quand même voulu encore nommer ces quelques détails qui sont très importants et qui sont aussi souvent attaqués par bien des personnes qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, et pourtant parlent dans ce sens-là contre la gloire du Seigneur Jésus. Mais venons maintenant à cet épître, le troisième épître de Jean, où il a écrit à un homme, un bien-aimé. Là, il dit bien-aimé. Nous avons vu que pour la dame, il n'a pas écrit la bien-aimée. Ce n'était pas la façon adéquate de parler à une femme. Mais ici, à cet homme, Gaius, il dit le bien-aimé. Encore une fois, c'est l'ancien qui parle, c'est celui qui a un cœur pour les chrétiens, pour ceux qui sont aussi à son service. Et son cœur est là et parle pour Gaius. Ce sont de nouveau des très belles pensées qu'il a. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je l'aime vraiment. Il n'y a aucune fausseté. Il n'y a aucune pensée propre, parce que chez nous, ça peut arriver que nous avons différents motifs hein, pour montrer notre amour. Montrer notre amour tout à fait vrai, dans la vérité, selon la vérité telle que nous la connaissons, un frère, nous l'aimons parce qu'il est un frère, parce qu'il possède la vie éternelle, parce que c'est un bien-aimé du Seigneur, parce que c'est quelqu'un avec lequel nous serons là-haut, ensemble. N'oublions pas ça d'ailleurs, c'est une grande pensée que ceux qui sont maintenant à côté de nous, ils le seront aussi là-haut, dans la maison du Père. Et si j'ai des pensées qui sont un peu, disons, j'ai quelque chose contre lui, contre sa pensée, contre etc., alors n'oublions pas que c'est un frère. Qui a la même nature, qui a le même Père, qui a le même Seigneur, qui est aimé du même amour, qui connaît la même vérité. Il l'a connue parce qu'il s'est converti. Donc il a connu la vérité que Dieu dit quant à lui. Il a connu aussi la vérité que le Seigneur a révélée de lui-même, de sa personne. Voilà. Il aime, il dit, dans la vérité. Et maintenant, il a quelques pensées qui sont, qui nous paraissent très naturelles, hein, très naturelles et naturelles dans le bon sens. Vous me comprenez quand je dis naturelles, oui. Alors, bien-aimés, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Que tu sois en bonne santé. L'apôtre savait bien ce que c'était, la bonne santé. Il savait aussi ce que c'était, et nous le connaissons très bien, ce que ça veut dire être malade. Avoir des soucis de santé, etc. Ah, le Seigneur le sait. Ce n'est pas quelque chose qui passe à côté de lui. Et aussi, ici l'apôtre, son apôtre, qui connaissait bien son Seigneur. A aussi ce simple souhait que tu sois en bonne santé. D'ailleurs, nous savons bien que la bonne santé, elle a aussi un effet sur notre vie spirituelle. Et le manque de santé physique aussi, a aussi une influence, peut aussi un peu amoindrir notre joie, notre paix, etc. Cela peut, ça ne doit pas, mais ça peut. Nous savons qu'il y a aussi, en nous, il y a aussi une liaison entre la bonne santé que nous pouvons avoir et aussi la santé spirituelle. Mais alors, là, il dit, comme ton âme prospère. Alors, quant à son âme, il savait quelque chose. Il ne le dit pas comme un souhait, mais il dit, comme ton âme prospère. Et pourquoi est-ce qu'il pouvait le savoir? Il le dit après. Car je me suis très fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Comment toi, tu marches dans la vérité? Ah, c'est ça. L'apôtre dit donc, si quelqu'un marche dans la vérité, je sais que son âme prospère. Et ça, c'est quelque chose de très important. Marcher dans la vérité, ça veut dire, ça nous amène aussi à une âme qui prospère. Nous aurons une âme qui prospère, une âme qui fait des progrès aussi dans la connaissance du Seigneur Jésus, qui fait des progrès parce que notre cœur et notre cœur cherche à suivre le chemin de la vérité. Et il est dit, d'ailleurs ici, ils ont rendu témoignage à ta vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, à ta vérité? Je crois qu'on pourrait dire peut-être au fait que tu maintiens la vérité, au maintien de la vérité chez toi. J'ai traduit ça un peu de l'expression allemande que nous avons à ce moment ici. Et je crois aussi, ce n'est pas une note qui le dit aussi. Donc, je ne sais pas. Bon. Enfin, c'est là la pensée, n'est-ce pas? Parce que lui, il vivait dans la vérité, il maintenait la vérité. La vérité était quelque chose qui lui coûtait cher. Qu'il voulait vraiment montrer, révéler dans sa vie. Et alors d'autres en témoignaient cela. Ce n'est pas lui qui a dit ça. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que nous trouvons quelquefois. Il y a d'autres qui rendent témoignage. D'ailleurs, on ne peut pas rendre témoignage de soi-même. Attention. On cherche quelquefois à rendre témoignage de soi-même. Eh bien, c'est bien, dans la parole, nous apprenons que d'autres rendent témoignage et que peut-être le Seigneur montre à d'autres quelle est l'attitude, quelle est la vie de quelqu'un. D'ailleurs, entre parenthèses, nous savons bien que quand il y a quelqu'un qui veut être reçu à la table du Seigneur, par exemple, nous avons besoin au moins de deux témoignages, c'est clair. Mais alors, ce n'est pas moi-même. Si je demande de cette place que moi je rends témoignage de moi-même, mais c'est un autre qui rend témoignage. Je peux bien dire que je connais le Seigneur, que je suis croyant, mais ça doit être visible aussi pour d'autres. pour eux qui doivent maintenant, dans un rassemblement, qui doivent accepter, recevoir, disons, pour eux, c'est un témoignage qui est nécessaire. Et le Seigneur le donne. À l'un et à l'autre, il y a des personnes qui peuvent rendre témoignage. Mais pas moi-même, quant à moi. D'ailleurs, ce serait une certaine forme d'orgueil si je voulais rendre témoignage moi-même. Ah, je suis telle et telle personne. Attention, modestie. Et alors l'apôtre continue, « Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entends de dire que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça, c'est le cœur de l'apôtre, le cœur de cet ancien. Et chers amis, c'est aussi la joie pour ceux qui aiment le Seigneur. Quand on voit quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, qui marche dans la vérité, et on remarque cela parce que ça devient visible, alors nous aussi, ceux qui veulent suivre le Seigneur, le voient et se réjouissent également. Quelle joie! Peut-être je l'ai déjà dit hier, mais quelle joie pour des parents, des parents croyants, des parents qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur. Quelle joie pour eux quand ils voient que les enfants marchent dans la vérité. L'apôtre ici le mentionne et dit « Je n'ai pas de plus grande joie que ceci » quant à des personnes, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement connaître la vérité, mais c'est marcher dans la vérité, dans la pratique. Et quelqu'un qui marche dans la vérité, il se laisse aussi protéger et garder par la vérité. Ici, nous avons encore une fois aussi la vérité, comme dans la deuxième épître de Jean, nous trouvons de nouveau cette grande pensée de la vérité, et elle est de nouveau, elle est liée avec l'amour. L'amour dans la vérité. Dans la deuxième épître, nous avons bien vu que la vérité, donc l'amour se révèle toujours dans la vérité. C'est qu'alors que c'est seulement un amour en rapport avec la vérité qui est un vrai amour. Je peux dire que j'aime tel et tel frère et je laisse passer toutes sortes de choses. J'ai lu l'autre jour un exemple d'une maman qui aime son enfant et l'enfant fait quelque chose, a mis sa main sur un fourneau très chaud. Bon. Alors il dit non. Mais l'enfant veut. Est-ce que la maman veut aussi? Eh bien non. Elle veut le bien pour son enfant. Et c'est pour cela qu'elle dit non à cela. Si nous voyons un croyant qui marche sur un chemin qui mène à un échec, à une perdition, nous le laissons aller. Oui, mais alors il le veut et il ne faut pas le chagriner, n'est-ce pas, parce qu'il veut absolument aller comme ça. Je vais montrer mon amour en le laissant aller. Ah, c'est un amour de le laisser aller jusque dans l'échec? Eh bien non, l'amour fait autrement. L'amour se rappelle la vérité, vous comprenez ce que je veux dire, et puis elle dit, non, stop. Je t'avertis, il ne faut pas continuer comme cela. Alors il y a quelquefois une fausse pensée quant à l'amour, n'est-ce pas? Le vrai amour cherche le bien de l'autre et aussi veut le garder et le protéger, et peut-être aussi en disant non, fais pas cela. Peut-être même sévère. Sévérité, on peut dire. Sévérité est mauvaise? Ce n'est pas l'amour? C'est le contraire de l'amour? Pas du tout. Être sévère, ça peut être très très bien et un signe de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Oui, maintenant, cet homme, ce Gaius, qui était quelqu'un qui marchait dans la vérité, et dont l'apôtre le dit, maintenant, il reçoit encore un encouragement. Un encouragement, je trouve, quand l'apôtre dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement de tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers. » Bien à ce que tu fais. Je peux te soutenir seulement quant à ça. Tu fais bien, tu fais fidèlement. Ah, fidèlement. Fidèle à quoi? Fidèle à la vérité. Parce que la vérité nous montre que nous devons aimer notre frère. Alors il fait quelque chose pour les frères et fidèle dans l'amour, il les aide, il les reçoit, il les aide comme il est dit après. Alors l'apôtre lui dit, tu fais fidèlement quelque chose. Et la fidélité, c'est une qualité que Dieu aime bien, la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles? Fidèles à notre Seigneur. C'est-à-dire, nous ne pouvons être fidèles quand nous ne le suivons pas. Mais quand nous suivons le Seigneur, quand nous cherchons sa volonté, quand nous cherchons la volonté de Dieu, quand nous cherchons à répondre à ce que nous apprenons dans l'Écriture, nous sommes fidèles. Et c'est quelque chose qui plaît à notre Dieu Père, qui plaît à notre Seigneur. Et lui, ici, ce Gaius, il agit fidèlement, exactement selon ce que Dieu aime qu'il fasse. Tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela envers ceux-là même qui sont étrangers. Ah oui, il ne les connaissait pas. Mais il avait compris que c'était des frères. Est-ce que nous aimons les frères qu'on ne connaît pas? Un frère arrive, nous avons vécu ça dernièrement dans notre rassemblement, et il y a un homme qui arrive, et tout d'un coup, on ne le connaissait pas, personne ne le connaissait. Mais il est là, il a demandé, est-ce que je peux entrer? Alors il est entré, on lui a donné une place pour se mettre là. C'était une réunion de prière. Il s'est agenouillé avec nous et après la réunion de prière, on a eu encore une réunion d'études. Il était là, il a écouté. Après, on lui a dit bonjour, mais il s'en est allé. Un frère? Oh! Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dimanche après, il est là. Le matin, il est là. L'après-midi, le mercredi après, il est là pour la réunion de prière. Il a continué comme ça. Bien sûr, on a remarqué, c'est quelqu'un qui aime la parole, paraît-il. On le voyait bien qu'il aimait la parole. Il aimait aussi être avec les amis. Plus tard, il m'a dit que, bon, on a remarqué que c'était un frère, que c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. On a remarqué ça, qu'il aimait le Seigneur et qu'il aimait aussi la parole. Voilà. On l'a reçu, bien sûr, avec beaucoup de joie, quand on a compris ce qu'il cherchait. Il cherchait la place, la bonne place. Il cherchait la place où l'on priait. Et il m'a dit après, tu vois, les prières que j'ai entendues, ça m'a dit, ah, je suis à la bonne place. C'est ce qui m'a fait comprendre cela. Bon, on était très heureux d'avoir comme ça trouvé un frère. Et lui, de la même façon. Un étranger, mais un frère. On l'aimait bien, on l'a bien reçu, et alors on était en bonne communion avec lui depuis maintenant presque 3 ans. Voilà. Ici, ce Gaius, il a montré son amour. Il est dit après qu'ils ont rendu témoignage, ils ont, ces frères qui étaient venus, qu'ils ne connaissaient pas, qui ont rendu témoignage de ton amour devant l'assemblée. Ils ont dit ça devant l'assemblée. Alors, ce frère-là, il nous a reçus. C'est un frère qui a de l'amour, qui nous a montré l'amour, l'amour du frère. Très beau. Et encore, l'apôtre ajoute quelque chose. Tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu. Pour les frères, on peut aussi sacrifier quelque chose. Pour des frères, on peut renoncer à quelque chose que je pourrais avoir moi-même. Vous me comprenez certainement quand je dis ça, renoncer à quelque chose, à un droit peut-être, pour le frère, pour montrer mon amour pour le frère, aussi pour son bien, et être fidèle à la parole et être vraiment plein d'amour pour un tel frère. Tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu. Ah oui, pourquoi digne de Dieu ? Il est expliqué encore, car ils sont sortis pour le nom. Ils sont sortis pour le nom. Ils sont sortis, c'est-à-dire ils se sont mis en route, ils ont prêché l'évangile, ils ont fait quelque chose pour le Seigneur, ils sont sortis pour le nom. J'ai vu que dans le texte reçu, il est dit son nom. Mais le texte tel que nous le connaissons, c'est tout simplement le nom. Ah, pour l'apôtre Jean, c'était clair. Le nom, c'est une seule personne. Le nom. Eh bien, pour nous aussi, le nom, nous sommes réunis au nom du Seigneur. Nous le disons, bien sûr. Mais l'apôtre pouvait dire tout simplement pour le nom. Pour lui, c'était uniquement le Seigneur Jésus. Ils sont sortis pour le nom. Ils travaillaient pour le Seigneur. Et ne recevant rien de ceux des nations. Il paraît que c'était des frères qui étaient d'origine juive, parce qu'ils ne reçoivent rien des nations, ceux des nations. On ne le sait pas très bien, mais ils ne reçoivent rien des nations. Ils ne prenaient rien. L'apôtre Paul aussi a dit une fois, « Je rends l'évangile gratuit. » Voilà ça. Ils ne voulaient pas avoir quelque chose. Ils travaillaient pour eux. Ils allaient chez eux. Ils mettaient leur temps pour les enseigner, pour les évangéliser, pour leur montrer ce que la parole dit, et pour les amener au Seigneur Jésus. Alors, ils n'ont rien demandé, comme on dit, comme on voit très souvent dans la chrétienté, qu'on fait quelque chose, mais seulement, alors il faut aussi que ça compte. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est la bonne attitude qu'ils avaient, ces frères. Ils ne recevaient rien. Mais alors, il dit, quand nous, on comprend ça, il parle donc de vous ou toi, mais nous, c'est-à-dire nous aussi, l'apôtre aussi, il dit après, nous donc, nous avons... Nous devons recevoir de tels hommes afin que nous coopérions avec la vérité. Alors nous pouvons être des collaborateurs collaborateurs pour de telles personnes. Et ça, chers amis, ça, c'est une vérité dont nous sommes très heureux que nous pouvons le faire. Peut-être nous n'avons pas un don de faire quelque chose pour le Seigneur. Ah, nous avons quand même un don. Parce que nous avons peut-être des moyens pour soutenir. Nous avons aussi la manière de prier pour coopérer, collaborer dans l'Évangile. C'est un champ assez vaste. Et nous pouvons tous le faire. Déjà dans la prière, nous prions, non ? Le matin, quand nous faisons une prière, nous prions aussi pour les frères qui évangélise. Nous demandons que le Seigneur bénisse l'évangile, qu'il bénisse aussi ceux qui portent l'évangile quelque part. Est-ce que ce n'est rien ? Oh, si, si. Ça, c'est quelque chose, c'est un service. Et nous savons bien que beaucoup de sœurs qui ne peuvent pas travailler ouvertement, vous me comprenez quand je dis ça, publiquement, très très souvent, ils font justement ce service-là. Un service très, très appréciable. Combien de sœurs prient pour les jeunes, pour les jeunes sœurs, pour les jeunes frères ? Service ? Si. Coopération ? Collaboration ? Oui. On a dit même des fois que l'on remarque qu'une sœur âgée était partie pour être auprès du Seigneur. On l'a remarqué parce que c'était une sœur de prière. Nous avons encore d'autres moyens pour aider et pour soutenir et pour coopérer, pour collaborer aussi avec l'Évangile. Oui, aussi avec le service de la parole, et le Seigneur peut nous montrer en quoi nous pouvons vraiment être des collaborateurs, chacun pour soi. On n'a pas de règles, le champ est très grand, mais il faut y réfléchir, il faut y avoir le cœur pour le faire. Voilà ce que l'apôtre dit, et en réalité, nous voyons que le verset 9, alors ça c'est on pourrait se dire un nouveau paragraphe. Hein. Maintenant, j'ai écrit quelque chose à l'Assemblée. Ça ne doit pas nous étonner, parce que en pensant que Jean, en général, ne parle pas de l'Assemblée, il parle de la famille de la foi. Ça, c'est vrai. Il a surtout la famille de la foi devant lui, et ainsi il parle. Mais, bien sûr, lui aussi, il appartient d'ailleurs aussi à ceux qui, en Éphésiens 3, sont mentionnés comme de telles personnes qui ont reçu aussi cette révélation de la grande vérité de l'Assemblée. L'apôtre Paul, qui en parle, il avait le service pour révéler ce mystère de l'Assemblée. Mais les autres, il dit aussi que Dieu l'a révélé à ses apôtres. Donc, Jean aussi, également, connaissait bien sûr toute la vérité de l'Assemblée. Mais il n'en parle pas, ce n'était pas son service, comme c'était le service de l'apôtre Paul. Et pourtant, maintenant, il a écrit une lettre à l'Assemblée. Eh bien, ça se peut, hein, qu'un frère écrive une lettre à l'Assemblée. C'est-à-dire, la lettre, elle est adressée à qui ? Est-ce que c'était ici que cette lettre a été écrite à un des frères qu'il connaissait ? Oui, très souvent nous avons dans les rassemblements, nous avons un frère duquel nous disons peut-être que c'est lui qui reçoit les lettres, mais qui sont des lettres pour l'Assemblée. Alors c'est simplement l'adresse de ce frère. Mais c'est un frère fidèle. En quoi est-ce qu'il est fidèle ? Il est fidèle en présentant cette lettre qu'il a reçue pour l'Assemblée, pour la faire connaître à l'Assemblée, parce que l'Assemblée tout entière est concernée. Et ce n'est pas ce frère-là qui était le vrai celui qui recevait, n'est-ce pas ? On dit destinateur. C'était l'Assemblée. Mais alors ici, il paraît peut-être que c'était ce Diotrephe dont il parle ici. Ce Diotrephe avait reçu cette lettre. Mais ce n'était pas une lettre pour lui. Non, c'est une lettre pour l'Assemblée, l'apôtre le dit. Où est-ce qu'il y a cette lettre ? Est-ce que cette lettre a été lue devant l'Assemblée ? Nous voyons que c'est tel frère. Ce n'est pas un frère fidèle, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des frères fidèles, en général, en tout cas dans les rassemblements, auxquels on donne la, on demande, est-ce que tu peux donner ton adresse pour que des lettres pour l'Assemblée peuvent arriver ici ? Parce que l'Assemblée elle-même, elle n'a pas, elle n'est pas une institution qui se trouve dans le, dans le, dans le Beautin, Beautin dit, je crois, oui, dans le Vaud, ou bien, mais c'est certainement des personnes, donc une personne. Mais, dit Autreff, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Mmh. Qui aime à être le premier. Nous connaissons le mot « le premier ». Il y a un apôtre qui a dit « Je suis le premier des pécheurs ». Parce qu'il reconnaissait qu'il avait vraiment fait un grand péché, l'apôtre Paul, quand il était encore le Saül de Tarse, quand il était encore pas converti, quand il ne connaissait pas encore le Seigneur, mais combattait contre le Seigneur. Là, il avait persécuté les croyants. Nous connaissons son histoire, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il dit « Je suis le premier des pécheurs ». Pour ainsi dire, le plus grand. Mais ici, il dit « Moi, je suis le plus grand », dans un autre sens. Alors, il s'agit de moi. Moi, je suis important. On ne peut pas passer à côté de moi. Moi, je joue un rôle. Et je joue un rôle important. Nous remarquons déjà cette expression que l'apôtre emploie ici pour cet homme dit Autreff, qui aime à être le premier. C'est un amour propre. C'est de se... Ah, là, nous avons quelqu'un qui rend témoignage de lui-même. Hein. Moi, je suis le premier, vous ne trouvez pas ? Qui aime à être le premier parmi eux ? Elle veut dominer. Le Seigneur Jésus a dit aussi en Marc 7, bon, peut-être nous lisons juste ce passage. Il me semble que c'est Marc 7, oui, je crois. Non, ça, je me suis mis là. Non, c'est Marc 10, excusez-moi. Voilà. 44, oui, merci bien, oui. Je lis déjà le verset 43. « Mais il n'en est pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. » Avec ce grand exemple du Seigneur Jésus qui ajoute « car ». Aussi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il a servi. Alors, qui veut être le premier ? Il doit servir. Et ceux qui veulent être le premier, comme se dit Autreff, ils n'étaient pas là pour servir, mais pour dominer. Mais alors l'apôtre n'accepte pas. Alors, disons, dit Autreff n'acceptait pas l'apôtre. Il ne voulait même pas un apôtre. Il ne voulait pas accepter la parole d'un apôtre. Et pourtant, un apôtre avait une autorité. Autorité donnée par le Seigneur. Diotrephe veut user une autorité. Mais une autorité qu'il s'est donnée de qui? Qui lui a donné cette autorité? Personne. Être le premier dans le rassemblement. Qui est parmi vous le premier ici, disons à Strasbourg? Qui est le premier dans le rassemblement de Strasbourg? Qui est le premier dans le rassemblement là où j'habite? Il y a un seul qui est le premier. Un seul qui est celui qui domine. C'est le Seigneur Jésus qui est le premier. C'est le Seigneur Jésus qui a de l'autorité. C'est aucun frère a de l'autorité de soi-même. Il peut avoir une autorité conférée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est montré fidèle. Parce que c'est le Seigneur qui lui donne peut-être une autorité. Il peut avoir une autorité morale à cause de sa vie. Et cela, nous reconnaissons cela. L'apôtre Paul parle, par exemple, dans le premier épître aux Thessaloniciens, il parle de ceux qui travaillent et qui vous... Comment il a dit? Cinquième chapitre. Un Thessaloniciens 5. Verset 12. « Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. » Ah voilà, ça c'est autre chose. Ils étaient donc à la tête dans le Seigneur. Ça peut arriver. Et ça existe aussi dans un rassemblement, qu'il y a des frères qui ont suivi vraiment le Seigneur, et on le reconnaît, on le voit, qui ont une autorité morale, et alors qui peuvent aussi travailler peut-être comme un ancien. Ça existe aussi, nous savons que cela existe aussi. Des anciens, des surveillants dans un rassemblement local. Oui, ça existe. Et alors là aussi, il faut les regarder, il faut les estimer, et il faut aussi les suivre quand ils parlent de la part du Seigneur. Mais ici, cet homme-là, c'est Diotrephe, il prend une autorité soi-même. Et cela se montre dans ses œuvres. L'apôtre dit, c'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchantes paroles contre nous. Est-ce que c'est cela, ce que les serviteurs de 1 Thessaloniciens 5, de ce qu'il est dit d'eux? Non, ils ont travaillé, ils ont servi. C'est une attitude tout à fait différente, tout à fait... Mais ici, débitant des mauvaises paroles, méchantes paroles, débiter, j'ai réfléchi à cette expression, je dois dire, parce que nous, en allemand, un autre mot, un mot qui, ceux qui savent l'allemand peut-être le comprennent, erschwatzt, on peut dire aussi, c'est-à-dire... Parler contre quelqu'un avec des paroles méchantes, hein, ça. Ce n'est pas, ça n'a pas de vrai sens, mais c'est méchant contre nous, contre les apôtres. C'est très grave. Et encore, c'est la première chose. La deuxième chose, non content de cela, lui-même, il ne reçoit pas les frères. Lui dit, eh non, oh, laisse-les, on n'a pas besoin d'eux. Une attitude permise? Non, pas permise. et il empêche ceux qui veulent les recevoir. C'est-à-dire, il use encore de pouvoir, autorité, contre d'autres. Alors non. C'est lui qui décide, c'est lui qui domine. Et nous comprenons bien que c'est tout à fait faux. Tout cela n'a pas place, ne peut pas avoir place dans un rassemblement réuni au nom du Seigneur Jésus. Que quelqu'un se montre comme ça. Et l'apôtre ne laisse pas la chose comme elle est. Il dit tout simplement une petite phrase. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait. Je vais venir. Alors, nous voyons que l'Esprit de Dieu n'accepte pas une telle autorité. Qu'on se confère soi-même. Mais on prend l'autorité du Seigneur. Et on prend cette autorité et la prend pour soi-même. Alors là, l'apôtre dit, ça ne peut pas rester comme ça. Je me souviendrai de cela. Je vais lui parler. Je vais aussi, il ne dit pas ce qu'il va faire. Mais attention, c'est aussi une expression qui dit que l'Esprit Saint n'accepte pas cela. Le Seigneur dit de l'Esprit Saint que l'Esprit Saint, il vous enseigne la parole, il vous fait comprendre la parole, il me glorifie. C'est bon, c'est grand. Il me glorifiera. Et alors, l'Esprit Saint ne pourra jamais accepter une telle attitude, un tel comportement que celui de Diotref. Donc, aussi, dans un rassemblement aujourd'hui, nous n'avons pas des apôtres, ils ne vivent plus, mais il y a encore l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint va travailler pour que quelqu'un, ou bien s'humilie, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire, veut produire, qu'il y a une vraie humiliation avec un tel homme. Il a besoin vraiment de s'humilier et de confesser sa position, son attitude devant Dieu, devant le Seigneur et devant aussi ses frères et sœurs. Parce que quand il y a des choses pareilles, c'est aussi eux-là, ses frères et sœurs qui sont concernés. Donc, il doit y avoir une vraie humiliation. C'est le seul chemin, d'ailleurs, pour revenir à la paix dans cette assemblée. Dans cette assemblée, il n'y a pas la paix. C'est pour cela aussi que Gaius a besoin d'être réconforté. L'apôtre lui dit ça aussi, lui écrit ça. Et pourquoi ? Parce qu'il veut aussi dire à Gaius, écoute, je comprends, sans le dire, je comprends ta position, ta difficulté, je comprends tes peines, je comprends ta tristesse quant à l'état. Et je te dis comment je vais faire et comment l'Esprit de Dieu juge ces choses, apprécie ces choses. Ces choses sont mauvaises, pas acceptables, et le Seigneur va aussi produire quelque chose. Soit une humiliation de cette personne, soit aussi que le Seigneur fait autre chose. Il a tous les moyens, l'apôtre n'en parle pas, mais nous comprenons bien que le Seigneur a tous les moyens aussi pour faire taire une telle personne. À la fin, il est dit encore, et ceux qui veulent le recevoir, il les chasse de l'assemblée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par se chasser de l'assemblée ? Nous ne savons pas très bien ce que ça veut dire. Mais enfin, il les ôte, il doivent s'en aller. Mais est-ce qu'alors, je ne vais pas parler de l'Assemblée, de ce que dans une Assemblée est nécessaire de faire, mais aussi l'Assemblée doit s'occuper de cela. Le Seigneur l'amènera aussi à s'occuper d'un tel cas. Est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres qui le suivent, qui suivent ce diotrèphe? Il y a Gaius qui certainement en souffre, mais alors il est soutenu par l'apôtre Jean. Il reçoit cette lettre. Et cette lettre a été écrite par le Saint-Esprit pour être aussi une instruction pour nous dans les années 2000. Donc, c'est quelque chose qui nous parle aussi, qui nous dit aussi comment Dieu apprécie un tel cas. Nous devons apprendre quelque chose, surtout dans la dépendance du Seigneur, prier pour cela et vraiment agir en sagesse selon le Seigneur. Et le Seigneur fera tout. Et ça, quand nous ne savons plus, nous avons dit déjà hier, je crois, quand nous ne savons plus que faire, nous savons bien qu'il y a un qui sait faire. Il y a un qui peut aussi changer les choses, qui peut produire ce qui est nécessaire dans sa sagesse et dans son amour pour l'Assemblée. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Oui, c'est compréhensible, bien sûr, pour nous tous. N'imiter, mais imiter, c'est souvent ce qu'on fait. Je me rappelle qu'un frère a demandé une fois aussi, quel chemin est-ce que tu choisis ? Tel chemin, ce chemin-là, le chemin de la fidélité, c'est une décision. Je peux prendre la décision sur où j'aimerais quand même encore avoir quelque chose dans le monde. J'aimerais bien encore avoir quelque chose pour moi-même. Quelle est ma décision ? L'humilité devant le Seigneur et dépendance de lui. N'imite pas le mal, mais le bien. Le bien est de Dieu. Dieu, toujours. Il fait toujours ce qui est bien. C'est compréhensible très vite. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Là, il n'a pas Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire, son regard n'était pas dirigé sur Dieu. Parce que s'il avait vu Dieu, comment Dieu agit, il n'aurait pas fait le mal. Donc, il est nécessaire, nous pouvons dire, au lieu du mot Dieu, nous pouvons aussi dire Dieu le Fils, Dieu le Père. Regardons le Seigneur, regardons notre Seigneur, Dieu le Fils. Et quand nous le regardons, nous serons aussi gardés du mal. Mais quand nous ne le regardons pas, le mal est très, très vite devant la porte. Il y a encore la fin, Démétrius, un homme, un frère, il a un témoignage de tous, et de la vérité elle-même. Alors, c'est la vérité, c'est-à-dire cette vérité de la parole, qui montre que Démétrius est un homme de bien, que c'est un homme de bien, c'est un homme qui a un bon témoignage. Et aussi l'apôtre lui rend témoignage. Il dit, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Alors c'est Démétrius, qui est-ce? Est-ce que c'est peut-être celui qui était le porteur de la lettre? Ça se peut. Enfin, ce Démétrius, ou est-ce qu'il était quelqu'un de ceux qui travaillent pour le Seigneur, de ceux qui du verset 5 et 6? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, nous voyons là encore un frère duquel la parole parle bien. C'est une question que nous pouvons aussi nous poser. Comment la parole, comment les frères et sœurs, comment tous, comme il est dit ici, comment est-ce qu'ils peuvent parler de nous? Est-ce que nous sommes vraiment des personnes humbles devant le Seigneur? Humble devant Dieu, et obéissant à la parole, cherchant à vraiment suivre le chemin de la vérité. Est-ce que nous sommes des personnes desquelles on peut voir que nous aimons le Seigneur? Ce sont des questions que chacun peut se poser et c'est certainement pour notre bien que nous nous mettons à genoux devant Dieu pour lui demander d'être vraiment fidèle. Encore une fois, ici, l'apôtre parle de ce fait qu'il veut encore parler de bouche à bouche. Et nous avons déjà dit quelque chose concernant la lettre qu'il a écrite à cette dame, deuxième épître. Mais il ajoute encore autre chose. Il dit encore, j'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. J'aime bien te voir. J'aime bien parler avec toi. Tu pourras me dire quelles sont tes pensées, quels sont tes soucis, quel est ton chagrin, quelle est ta joie, de cœur à cœur, c'est ça. Et c'est très beau, très utile. D'ailleurs aussi aujourd'hui, même aujourd'hui, où il n'y a plus d'apôtres, nous pouvons connaître cela aussi. On peut aussi parler de cœur à cœur à un frère. Et c'est très bien, c'est très beau. Ça soutient l'un et l'autre. S'entretenir de la personne du Seigneur et d'être vraiment de cœur lié en communion l'un avec l'autre. Ça, c'est quelque chose de très, très beau que nous trouvons là. Ce que cet apôtre veut vraiment vivre avec ce frère Gaius. Paix de soi, oui, la paix. La paix de l'âme, la paix du cœur, chose très, très merveilleuse. Quand il y a la paix du cœur. Et il le dit certainement aussi parce qu'il pouvait se représenter qu'il avait certainement des chagrins et des soucis, ce Gaius, de vivre tout le temps ce diatrèphe, de voir cela tout le temps. Et alors, mais tu peux rester en paix. Le Seigneur sait tout cela. Le Seigneur va prendre soin de toi et aussi de la situation. Sois en paix. C'est quelque chose que dont nous avons besoin également, être vraiment en paix. Vous comprenez, je ne veux pas parler de la paix avec Dieu, nous l'avons, mais la paix du cœur. Et nous connaissons ces deux versets dans l'Épître aux Philippiens, que la paix de Dieu peut garder notre cœur, non, notre conscience, chapitre 4, pardon. Philippiens 4, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est une chose là, la paix de Dieu. Nous avons encore un peu plus loin, encore autre chose, et ça c'est vrai aussi, quand nous suivons le chemin de la vérité tel qu'elle nous est présentée dans les versets 8 et 9, à la fin il est dit « Et le Dieu de paix sera avec vous ». Encore quelque chose de plus. La paix de Dieu, mais aussi le Dieu de paix sera avec vous. C'est comme si c'est ce Dieu de paix est à côté. Accompagne. C'est un peu, ça me rappelle un peu Enoch qui marchait avec Dieu et Dieu marchait avec lui. Voilà, très très beau. Une très grande bénédiction. Et la fin, il a des amis. En français, on dit le mot « ami » aussi pour les frères et sœurs. Vous dites ça très volontiers, je comprends ça aussi. Mais quand nous lisons Jean 15, nous voyons que les amis, c'est quand même une expression spéciale. Et ici, les amis, il y a ceux qui t'aiment, il y a ceux qui te comprennent. Il y en a des personnes qui sont vraiment de ton côté, ce sont tes amis qui te connaissent. Et ces amis-là te saluent et tu fais la même chose, salue les amis. C'est-à-dire, ils rappellent. Et aussi, quand un frère ou frères et sœurs, tu n'es pas seul. Il y a encore des amis qui sont là, qui sont pour toi, qui te connaissent, qui t'aiment. Qui t'aiment dans la vérité. Salut les amis. Chacun par son nom. Un à un. Chacun est un ami. C'est pas l'ensemble comme ça, mais chacun est un ami. Très très beau de savoir. J'ai un ami et j'ai encore un ami. Je les connais de nom. Comme s'il voulait dire, l'apôtre voulait dire, n'oublie aucun. Ils sont vraiment les amis qui sont de cœur avec toi. Et il dit, en saluant, on dit aussi, et moi aussi.
Voulons chanter au cantique 104.
104.
À partir de la deuxième strophe.